Donc, on suit le guide aujourd'hui, c'est ça?
Bonjour, merci de m'appeler guide. Ouais, je veux bien, volontiers.
Vous êtes notre Virgile.
Ouais, essayez, c'est pas un rôle qui me fait peur.
On entre?
Oui.
Alors donc, ici, on rentre dans une première salle d'exposition. Tout a été conçu par vos soins?
Alors non, en plus, je peux pas le dire parce que Madame Schilt est à côté. Non, c'est pas vrai. On a fait ça à deux, forcément. Ça veut dire que l'idée de base, c'est une collection que j'ai depuis un moment, et des vêtements anciens, des vêtements qui caractérisent cette région, que j'aime bien.
Ça veut dire que vous avez un côté collectionneur aussi, quelque part?
Ah ouais, c'est plus qu'un côté, je crois.
D'accord, carrément. Et est-ce qu'il y a une différence notoire, la manière dont on se vêtissait à l'époque de votre grand-maman et puis à notre époque aujourd'hui?
Bien sûr. Regardez, on est sur à peu près trois générations, entre nous trois. On va dire que j'ai passé 55 ans, quelqu'un de 40, quelqu'un de 30. Si on a à peu près 15 ans d'écart à trois fois, ça fait en gros trois générations. Et pourtant, on porte les mêmes vêtements. On peut porter au niveau garçon quelque chose de très proche, à part la robe vraiment, très typée. Et on revient à quelque chose de très masculin, féminin depuis 5-6 ans. Mais au niveau générationnel, c'est compliqué d'avoir une différence. C'est bien, hein, tant mieux, j'entends. C'est une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut mettre des jeans, des baskets à tout âge, etc. Et vous voyez qu'il y a ce besoin d'identité chez les plus jeunes. Quand vous allez dans les grandes maisons, on parle des 15-25 ans en gros, ou à 20 ans, vous avez beaucoup de garçons qui ont envie de vestes, de cravates, de filles, de robes. Vous voyez des grandes chanteuses américaines ou anglaises, genre Adele, qui portent des robes de filles très filles, des chignons, des talons hauts. Donc on est dans cette fin de phase d'uniformité, d'âge, de sexe, de provenance.
On va vers où alors?
Alors, c'est qu'une vague éternelle. Souvenez-vous, quand les premiers émigrés, on va dire ça comme ça, sont arrivés dans les années 50-60, d'Italie, d'Espagne, où il y avait une connotation religieuse forte, habillé en noir, le deuil, on identifiait les gens forcément par leur provenance. Ça a été le cas dans les années 80-90 avec des gens de l'Est, avec des tenues sport. Il y avait des vêtements bien ciblés en fonction des provenances. L'uniformité s'est faite par la diffusion des médias, par la diffusion des grandes lignes de vêtements. Et c'est bien, c'est un plus. Et on est en recherche d'identité, on le voit très bien. Et je pense qu'on va garder cette unité européenne ou mondiale, mais avec des traits de caractère précis.
J'avais une question qui me tenait à cœur au passage. C'est quel rapport il y a entre le défilé de haute couture, qui pour un néophyte comme moi, très étonnant, parce que je me dis, ah bah tiens, voilà quelque chose que je ne porterai jamais dans la vie. Et puis justement, l'habit de tous les jours, vous avez parlé des grandes surfaces.
C'est bien que vous réagissiez comme ça, que vous ne vouliez pas le porter, puisque c'est ce qu'on appelle un effet podium. C'est vous vendre un champagne millésimé 1888 pour aller acheter une clairette à 9,80 francs. Donc vous êtes dans l'esprit champagne avec votre vin pas cher, vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'effet podium, ce qu'on appelle l'effet podium de la haute couture, c'est faire un défilé. Évidemment, ça touche une certaine catégorie de monde. Dans les années 1900-1960, qui est vraiment le début de la haute couture, avec des créateurs comme Givenchy, qui a habillé Madame Kennedy, qui a habillé la Calas, qui a habillé des gens célèbres, qui ont des moyens, ces gens vont s'habiller chez eux, ils sont peu diffusés médiatiquement, on les voit en photo, on les voit dans l'illustré, on les voit dans les journaux, à la télé, une ou deux fois par mois. Donc des couturières ou des gens comme ma grand-maman qui cousent reprennent ces habits-là qui sont jolis et qui sont chics et qui font ville ou Paris ou Londres, etc. Donc les gens copient le haut, ce qu'on est encore en train de toujours faire. Votre voiture moyenne gamme ressemble à une autre gamme, votre montre moyenne gamme ressemble à une autre gamme. On a tous ce besoin de s'identifier vers plus haut.
À travers rien que la réponse que vous venez d'apporter là, puis toute de façon générale, moi j'entends deux choses. Déjà l'immense passion que vous avez pour tout ce qui concerne les vêtements et le style, mais surtout une forme de culture démentielle par rapport à tout ça. Ça vient d'où? Enfin, ça vient de, déjà quand vous étiez tout gamin?
Oui, ouais, moi j'appelle pas ça culture, j'appelle ça obsession. Ça veut dire que très succinctement, j'ai fait l'école ici à Port-en-Truy, j'ai fait un CFC, je suis parti à Lausanne, j'ai fait 6 mois d'armée, 6 mois d'Angleterre, et puis après j'avais toujours autant envie de faire de la couture et de la mode. Je cousais depuis l'âge de 5-6 ans à la maison en regardant ma grand-mère coudre, j'adorais ça. Pour moi, ça me paraissait juste normal d'avoir du fil, des aiguilles. J'ai un père qui était importateur de machines textiles. Donc, il y avait au garage, voilà, des machines textiles comme d'autres ont des moissonneuses-batteuses. Donc, j'étais dans un giron intéressant, mais j'y étais sensible. C'est aussi pour ça que ça fonctionne et j'aurais pu ne pas y être sensible et ça ne m'aurait pas touché. Donc, j'ai commencé à aimer ça, la matière, découper des chaussures, des journaux, des vêtements. J'ai 5-6 ans. Et puis, comme je suis bon élève entre ma mère, ma grand-mère, la famille autour qui aime les belles choses au niveau de la mode et de la culture des vêtements ou des objets, ben j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai feuilleté les magazines. Dès que j'étais à Lausanne à 20 ans, j'ai commencé à aller voir ou des défilés, ou des journaux qui concernent la mode, des choses comme ça. En 91, comme j'avais fait une école de couture, j'ai commencé à travailler à habiller des gens, des femmes, hommes politiques, qui ont été un peu reconnus par la patte, semble-t-il, que j'avais donnée. Et en 91, on m'a demandé de faire une émission de Radio Romande qui s'appelait Comédie, pendant l'été, puisque c'est le 700e, comment le Suisse s'habille, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, et comment il s'habille. Et puis j'ai dû faire des phrases genre « il est un peu en beige avec un knirps et puis un manteau de pluie toute l'année ».
Vous avez fait de la radio, quoi.
Et ça a plu, et comme vous riez, les gens ont ri. Donc ça m'a aussi motivé de creuser le sujet, puisque je vois que ça plaît. C'est le rendu et le retour. Et on gagne sa vie avec ça. Et j'ai écrit dans Le Matin pendant 7 ans les pages mode. Et Rapp m'a demandé, Jean-Philippe Rapp, de faire des chroniques. Et j'ai fait 10 ans de télé, toujours autour du même thème. Donc, j'ai pas vraiment de mérite dans le sens où on me demande de creuser le thème que j'aime. Quelle chance! Je garde des objets, je reviens pour rentrer après mes 10 ans de magasin à Lausanne, et j'ouvre un magasin ici. Ça fait 10 ans que j'ai un magasin pour rentrer. Et puis en même temps, on me demande de montrer ce que j'ai dans mes armoires. Donc pourquoi pas? Et ça colle bien, puisque le musée avait aussi envie.